Oui, bonjour, Philippe de Lequémo. Eh ben, écoute, Daniel, je viens d'écouter ton émission qui était très émouvante à propos de monsieur, car c'était un monsieur, Yann Parentoène. De ma fenêtre, on voit l'île grande. Il sculptait les sons comme son père avait sculpté la pierre. Cette nuit, je pense qu'une chouette ira pleurer au cimetière de l'île grande. Voilà, Kenavo Yann à Barados et Vindavue. Kenavo.
Ouais, René, Aix-en-Provence. Ça fait deux fois que sur l'antenne, j'entends que ce monsieur Yann Parentoène a assisté à plus de 100 Paris-Roubaix. Je croyais que Paris-Roubaix, c'était une fois par an. Alors, si on peut avoir quelques éclaircissements, parce que ça fait un peu lever les cheveux sur la tête. Voilà, merci, au revoir.
Ben oui, c'est vrai, j'ai dit ça. C'est vrai, j'ai dit que Yann Parentoène avait fait un reportage, enfin une émission, sur un Paris-Roubaix parmi 100. Évidemment, il n'a pas assisté aux 100 Paris-Roubaix. À 100 Paris-Roubaix, c'est impossible. Mais ben, c'était pour le centenaire du Paris-Roubaix, évidemment, vous aviez compris. Vous avez été nombreux à laisser des messages suite à l'émission d'hier sur ce grand homme de radio que fut Yann Parentoène. On en va avoir un petit extrait là, à nouveau, encore aujourd'hui, avant de commencer cette émission, avec deux écrivains, journalistes, qui sont... Denis Sifert et Sylvain Sipel. Ils ont presque dit ça, hein? Sifert et Sipel. Denis Sifert et Sylvain Sipel. Pour deux livres que je crois vraiment passionnants et très précieux en ce moment. Tous deux traitent de la question du Proche-Orient. L'un, celui de Sylvain Sipel, s'intitule Les Emmurés. La société israélienne dans l'impasse, donc une plongée dans la société israélienne, même s'il y a une partie du livre qui est consacrée aussi à la Palestine ou au territoire palestinien, l'essentiel c'est la société israélienne. Et puis Denis Sifert, lui, s'applique à répondre à la question pourquoi est-ce que cette question israélo-palestinienne nous intéresse? Pourquoi est-ce que tout nous ramène toujours à ce Proche-Orient. Pouvons-nous essayer de nous extraire de l'aveuglement, du passionnel, de la diabolisation de l'autre, de la glu, de la culpabilité, du déni de l'existence et des souffrances et des rêves de l'autre? C'est extrêmement difficile et seul, croyons-nous, croit-il, bien la raison, la plongée dans l'histoire, dans le passé, dans la mémoire, peut nous permettre peut-être de se sortir de ce déni, sachant qu'évidemment aucun observateur de ces questions israélo-palestiniennes ne peut rester seulement observateur. Ça, c'est absolument impossible. Chacun a son regard. Chacun vient avec lui-même. Et donc, ces deux auteurs, indéniablement engagés, vont, au cours de cette heure, nous apporter le fruit de leur réflexion et de leur travail. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, j'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour, un petit mot aux auditeurs de France Inter depuis Grenoble pour vous dire que demain, mercredi 2 mars, toujours dans le mouvement de soutien aux journalistes disparus et notamment à Florence Obna, Hussein Al-Sadi et Julian Asgren, et bien demain à Grenoble, il y a une réunion publique de solidarité et d'information à midi à la salle du conseil municipal de la mairie de Grenoble, avec notamment Benoît Aubenas, le père de Florence, Marie-Laure Colson de Libération, Robert Ménard de Reporters sans frontières, les parents de Fred Nérac disparu en Irak, ainsi que Eric Kiff, le frère de Guy-André Kiefer qui est disparu en Côte d'Ivoire. Voilà, donc merci d'annoncer ce mouvement. Et puis notez aussi qu'à 14h30, à l'Institut de la Communication et des Médias, il y aura un débat sur les guerres et les conflits en Afrique. À quoi servent les journalistes? C'est la question qu'on se pose. Et merci à vous de venir. Bonne journée à tous.
Bonjour, je suis Hélène Schaeffer. Je suis journaliste, pigiste et je suis en grève comme tous mes collègues de la rédaction d'Infomer, journal Le Marin, magazine L'Ostréiculteur et magazine Produits de la Mer, qui paraît tous les deux mois. L'Ostréiculteur, c'est tous les mois, et Le Marin, c'est toutes les semaines. Voilà, alors un petit message. Donc tous les pigistes du groupe Infomar qui édite le journal Le Marin tous les vendredis, mais aussi les magazines L'Ostréiculteur et Produits de la Mer, sont en grève depuis le 16 février. Pas de négociation avec la direction depuis 2 ans. Pour certains titres, le prix de rémunération des pigistes n'a pas varié depuis 1990. Nous aimons ce que nous faisons. Nous avons envie de continuer à travailler pour ces journaux, mais nous voulons simplement être payés décemment, c'est-à-dire non pas un tiers de ce que sont payés en général les journalistes dans la presse spécialisée professionnelle. Nous demandons simplement être payés à peu près normalement. Nous espérons réussir bientôt. Au revoir.
La façon intelligente de maintenir la passivité des gens, c'est de limiter strictement l'éventail des opinions acceptables. Mais, en permettant un débat vif à l'intérieur de cet éventail, et même d'encourager des opinions plus critiques et dissidentes. Cela donne aux gens l'impression d'être libres de leur pensée, alors qu'en fait, à tout instant, les présuppositions du système sont renforcées par les limites posées au débat. L'opinion acceptable, c'est la croissance. La dissidence, c'est la croissance verte, propre ou soutenable. L'opinion inacceptable, c'est la décroissance. C'est un article tiré un article de Noam Chomsky tiré de La Décroissance, le journal de casseurs de pub. La revue de l'environnement mental. Salut, salut.
Aujourd'hui, les députés français sont appelés à voter la loi Fillon, qui veut rendre obligatoire l'apprentissage de la Marseillaise à l'école. La Marseillaise, ce chant de haine nationaliste, guerrier et sanguinaire. Dans le même temps, on laisse nos enfants dans l'ignorance de l'hymne européen, l'ode à la joie, qui est infiniment plus porteuse d'espoir et d'humanisme. Dans le même temps également, la droite et sa plus fidèle alliée, la gauche caviar, tentent de nous persuader de voter oui à la Constitution européenne. Bizarre, non? Les Français sont-ils nationalistes ou européens? Comment pourrions-nous faire confiance à ces politiciens qui ont une pensée aussi tordue et aussi dénuée de logique? Salut Daniel.
Bonjour, moi je me souviens d'une émission de Yann Parentoen, c'était il y a 15-20 ans. Dans les ateliers de création radiophonique diffusés sur France Culture le dimanche soir. C'était en fait, Yann Parentoen avait suivi un coureur du Tour de France qui s'appelait Vincent Lavenue. Et là, c'était la diffusion de l'étape du Tourmalet. Cette étape mythique, entendue par Yann Parentoen, c'était absolument magique. Et qu'est-ce que je ne ferais pas pour pouvoir réécouter cette émission? Je ne sais pas si dans 15 ou 20 ans, on se rappellera des émissions qui sont produites et diffusées actuellement, là, les fameuses émissions de plateau dont vous parliez hier. En tout cas, merci Daniel Mermet de nous avoir rappelé qui a été Yann Parentoen, un grand homme de radio.
Salut, c'est Jean-Loup de Tribordin. Je voulais faire un petit salut pour Yann Parentoen. Je suis correspondant de presse à Ouest France et j'ai fait plusieurs papiers sur lui. Ce qui marquait le plus chez Yann, au-delà de son talent et de sa connaissance des sons, c'était surtout sa grande simplicité et le pouvoir qu'il avait de toucher tous les gens. Il va beaucoup manquer dans le paysage à lui rendre. Salut Yann.
Moi je pense aussi que c'est un art primitif, c'est-à-dire que il faut connaître 4 mots pour faire de la radio, play, stop, record et rewind. C'est tout, hein. Regardez, là, voilà. Et même des fois ce sont des flèches, comme les Indiens. Et c'est tout. À partir de là.
Bonjour.
À tant d'idées, de mots, d'images, de son lancé sur des ondes merveilleuses.
Voir rencontrer.
Salut, c'est Daniel Mermel à Bah si j'y suis avec Denis Sifer et Sylvain Sipel, Israël, Palestine et nous.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, on va parler de l'attentat suicide à Tel Aviv, déclaration de Dieudonné, dîner du CRIF, retrait de Gaza. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce point ? À ces sujets. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les auditeurs de France Inter ont un point de vue là-dessus ? C'est une des questions qu'on va poser à Denis Sifer et à laquelle répondra aussi Sylvain Sipel, qui sont nos deux invités aujourd'hui. Denis Sifer est l'auteur d'un livre intitulé « Israël-Palestine, une passion française », donc qui essaye de voir le lien qui peut exister entre la France et Israël-Palestine, j'ai pas encore prononcé le mot de conflit, enfin c'est ce qu'on sous-entend. Et puis Sylvain Sipel publie un bouquin qui s'appelle Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse. Et ça vient de sortir il y a quelques jours aux éditions de La Découverte. Alors je commence par Denis Sifer. Pourquoi est-ce que ces sujets nous intéressent et pourquoi est-ce que le livre de Sylvain Sipel qui parle de la société israélienne, un peu de la société palestinienne, mais essentiellement de la société israélienne, et il nous dira pourquoi. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse et ça va intéresser les auditeurs de La Passe J'y suis jusqu'à 18h?
Je dirais qu'il y a peut-être trois types de raisons. Il y a une raison d'abord historique. La France a été impliquée de tout temps au Proche-Orient, elle a convoité la Palestine, ça a été une déconvenue coloniale dans les années 20, donc il y a ce passé historique. Il y a une raison démographique qui est tout aussi évidente. La France a en son sein la plus forte communauté juive d'Europe, mais aussi une très forte communauté maghrébine qui entretient avec la Palestine une relation que Maxime Bonasson appelait d'arabité, c'est-à-dire moins déterminée par la religion, contrairement à ce qu'on dit, que par la langue et la culture. Ça, c'est la deuxième raison qui est sociologique. Et la troisième raison, qui est peut-être celle qui apporte peut-être le mieux une réponse à votre question, c'est un effet miroir. C'est-à-dire que de tout temps, cette question-là, le conflit, parlons-en donc, israélo-palestinien, ou avant cela, israélo-arabe ou judéo-arabe, a servi de miroir à la société française. Il s'est posé au sein de la société française et il pose le problème à la République du rapport avec ces minorités. Alors, des minorités qui officiellement n'existent pas, mais qui quand même existent. Et donc ça a toujours posé ce problème-là, c'est-à-dire de l'émancipation des juifs, de l'assimilation, l'intégration, et aujourd'hui d'autres communautés qui sont des communautés de culture arabo-musulmane, comme on dit. Donc je crois que c'est tout ça qui est mêlé, et qui fait que c'est en effet jamais un problème de politique étrangère, même si c'est aussi un problème de politique étrangère, mais c'est toujours aussi un problème de société. Et puis, bon, il y a des familles qui sont partagées, parce que, notamment au sein de la communauté juive, qui ont une part de leur famille en Israël, etc. Donc c'est quelque chose qui est intime aussi, qui traverse, disons, je dirais, la table familiale, hein, quelquefois.
Oui, c'est principal, oui.
Je crois qu'il y a un élément complémentaire à ajouter. Je crois que le problème n'est pas spécifique à la France. Je crois qu'il y a un intérêt général occidental au conflit israélo-palestinien. Mais je pense qu'il y a une spécificité française. C'est le seul pays qui a une sorte de mémoire coupable à la fois vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis des Arabes. Il n'y a pas d'autre pays qui est comme la France. C'est-à-dire que c'est en France qu'il y a eu Vichy, c'est-à-dire un régime politique qui a participé à l'envoi des Juifs à Auschwitz. Et c'est la démocratie française, c'est la République française qui a fait l'Algérie, qui a fait la guerre d'Algérie, et qui a mené une guerre coloniale pour empêcher un État algérien d'accéder à l'indépendance. Il n'y a pas d'autre État que la France qui a une sorte de mémoire compliquée, douloureuse, difficile.
Un double fardeau moral.
C'est pas le même type de fardeau. Mais, dans le cas de Vichy, c'est assez simple. On l'a longtemps dit, c'était pas nous. C'était un régime indigne qui ne repentait pas la France. Mais il fallait bien aussi assumer Vichy. Et puis dans le cas de l'Algérie, on ne peut rien dire. C'était vraiment la France démocratique, la République qui a fait cette guerre d'Algérie. Et les deux mémoires sont très difficiles à gérer et très coupables en même temps. Mmh. Et je pense que ça participe de cette focalisation sur un conflit qui met aux prises des Juifs et des Arabes.
Effectivement, lorsqu'on est en Israël et qu'on parle avec les Israéliens en général, avec des journalistes, des confrères, des intellectuels, etc., on échappe à ces culpabilités.
Ah, totalement,
ouais. On discute, on s'engueule, la passion est très grande, la mauvaise foi très grande, l'aveuglement à sa place, mais on n'est pas dans ce soupçon.
Il n'y a pas ce soupçon. Il n'y a pas ce à quoi je suis habitué, c'est-à-dire une tentative d'être délégitimé. On va placer le débat sur un terrain immédiatement idéologique. On ne discute plus des faits, mais de la représentation des faits. Et à ce moment-là, le débat devient quasiment vain. Quoi. C'est presque impossible. On est dans l'invective.
Le fait que deux communautés qui sont dans un enfermement, des enfermements presque symétriques, ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que, justement, je pense que l'effort, c'est d'essayer de comprendre l'histoire de l'autre. C'est ça qui est la chose la plus douloureuse.
C'est l'objet du bouquin de Sylvain Sipel.
La chose la plus douloureuse et en effet, malheureusement, inaccomplie pour l'instant dans notre société.
Jusqu'à quand va durer cette blessure? Non aux négociations, non à la coordination sécuritaire avec les Israéliens. La lutte armée est la seule moyen. Réfugiés, nous le sommes, réfugiés, nous continuons à l'être. L'intifada continue jusqu'à l'indépendance et le retour des réfugiés. Nous allons mourir debout, jamais nous rendre. Continuons notre résistance, notre lutte, c'est autour de ce camp où il y a les réfugiés.
C'est pathétique ce camp, parce que c'est les tentes. C'est les tentes de 1948 qui ressortent en 2001 et qui sont là avec les mêmes Nations Unies. Hein.
Sur les réservoirs, l'eau, c'est écrit.
Voilà, Nations Unies, les tentes, les inscriptions, et puis les gosses qui s'en foutent et qui jouent avec des cerfs-volants, qui s'en foutent et qui s'en foutent pas, parce que vraiment tout le monde
est impliqué.
Tout le monde est impliqué, quoi. Hein? Bonjour. Sylvie, bonjour.
Il faut peut-être dire qui parle. Denis Sifert est directeur de la rédaction de Politis, auteur au préalable d'un bouquin dont on avait parlé ici même sur la guerre israélienne de l'information, désinformation et fausse symétrie dans le conflit israélo-palestinien. C'est un titre un peu lourd, mais le bouquin était formidable. C'était un petit bouquin qui éclairait la façon dont le conflit israélo-palestinien était traité dans les médias et notamment dans les médias français. Mais je voudrais qu'on parle de vous, Sylvain Sipel, parce que vous dites dès le début qui vous êtes. Vous êtes rédacteur en chef au journal Le Monde, ça c'est une casquette, mais vous avez aussi, vous connaissez bien cette société israélienne, pour y avoir vécu plus de 10 ans, je crois.
Oui, 10 ans, oui.
Y avoir grandi. Vous prenez un parti, vous dites bien quel est votre angle avant de commencer à nous parler.
C'est-à-dire que moi, en tant que journaliste, il faut être honnête, je ne traite pas de la question israélo-palestinienne comme je traiterai d'autres questions. Je m'occupe de l'international depuis désormais fort longtemps. Bon, il faut être honnête vis-à-vis du lecteur. Je ne traite pas le conflit israélo-palestinien avec la même distance que je traite d'autres situations politiques conflictuelles. Parce que j'y ai vécu, parce que je connais énormément d'Israéliens, énormément de Palestiniens, parce que je suis juif moi-même, et que je viens d'une famille dans laquelle le sionisme, la Shoah, tout ça, c'était extraordinairement présent. Et donc, évidemment, le regard et les émotions et l'affect vont être différents de ce qu'ils sont lorsque je parle d'autres sujets. Ça, c'est évident. Et en même temps, je suis d'abord journaliste. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est essayer de sortir des images figées. Vous avez raison de dire que je traite à la fois de la société israélienne et de la société palestinienne, mais c'est un peu le pâté de cheval et d'alouette. C'est-à-dire c'est moitié-moitié, un cheval et une alouette. Hein. Il y a 12 chapitres sur Israël, il y en a 2 sur les Palestiniens, et un troisième chapitre commun. Et ce que j'ai voulu absolument faire, je voulais faire un livre sur la société. Parce que ce qui m'afflige et en même temps me sidère toujours, c'est le côté image d'Épinal. C'est un peu dans la suite de ce que dit Denis Schaeffer. Quand on est enfermé, quand on a un regard, on ne regarde jamais à droite, jamais à gauche, on a un regard absolument figé, alors le regard qu'on porte, c'est que ce soit sur les Israéliens ou les Palestiniens, soit c'est un regard totalement idéalisé, soit c'est un regard à la, démonisant. Donc l'Israélien est soit un monstre, soit un parangon de vertu absolument pur, de tout acte répréhensible. Et on pourrait dire exactement la même chose du côté palestinien d'ailleurs.
Mais il faut dire aussi que les intéressés, les Israéliens en l'occurrence, ou les Palestiniens, s'enferment eux-mêmes dans cet enfermement, quoi, sont pris eux-mêmes dans ces images,
bien
surtout
sûr.
Quand ils se présentent, lorsque les journalistes arrivent, hein, les journalistes posent des questions clichés, et les interlocuteurs ont des discours clichés.
Ça c'est vrai, c'est-à-dire que il y a un tropisme qui est très fort en Israël, c'est entre nous on peut dire les choses. Quand on est entre nous, on peut dire les choses. Mais vis-à-vis de l'extérieur, il faut se défendre. Donc il y a des choses qu'on ne va pas dire. Je raconte dans ce livre une histoire, je peux raconter très rapidement. J'étais rentré de reportage, puis un soir, quelqu'un m'appelle et il me dit, voilà, je vous appelle de Jérusalem, vous avez écrit des choses abominables, etc., c'est insupportable, tout ça a été faux. Donc je lui demande, dites-moi qu'est-ce qui était faux dans l'article. Alors je la fais courte. Alors le type n'arrivait pas à dire ce qui était faux. Alors, je lui donne les exemples que j'ai dans l'article. Je lui dis, je les ai pris dans la réalité, j'ai vu à la télévision, à la radio, dans un journal. Donc qu'est-ce qui est faux? Et puis il y a un blanc, j'ai dit au revoir monsieur, puis voilà. Et après je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il voulait me dire en fait? Et en fait ce qu'il voulait me dire, il disait bien sûr qu'on l'a vu à la télévision israélienne, bien sûr que la radio en a parlé, bien sûr que dans les journaux on en a parlé. Fallait pas en parler en France. Fallait pas en parler en France de ça. Ça, vous avez raison, ce tropisme-là est très fort. Entre nous, on peut débattre. Faut lire la presse israélienne, tout y est. Tout y est.
Alors l'essentiel quand même de votre bouquin porte sur le déni, le mot le plus employé dans, si on comptait les mots, vous savez.
Ouais, je crois que c'est le mot le plus employé.
Si vous êtes à la logométrie,
le mot
le plus employé, c'est déni qui revient beaucoup. Il y a enfermement qui revient beaucoup. Il y a sécurité qui revient beaucoup. Et ethnisme aussi, ethnicisme et ethnisme. Voilà, autour de ces quatre mots, on peut déjà avancer un peu dans votre bouquin. Mais enfin, vous faites commencer les choses en 1948. Autour de la création de l'État d'Israël, et vous revenez sur ce que d'autres ont appelé le péché originel d'Israël. Le terme ne vous plaît pas, mais là il s'est quand même passé quelque chose. Et là vous prenez vos souvenirs personnels, sur vous raconter comment, avec un camarade dans votre jeunesse, il y a dans un champ, je crois c'est ça, vous allez me dire, une sorte de puits, vous demandez qu'est-ce que c'est que ce puits, il a une drôle de forme, quelqu'un vous dit c'est minaret.
C'est pas moi, c'est un copain dans le même kibboutz où j'habitais, qui rentre un jour et il était ahuri, et donc on demande ce qui se passe, et l'histoire c'est que il travaillait dans un champ, il y avait une tour, un bout de tour. Alors il a demandé à son collègue israélien qui était un type de 30 ans, ça se passait en 68, et le type lui dit c'est le minaret. Il lui dit un minaret dans un champ, mais il dit pourquoi est-ce qu'on fait une mosquée dans un champ? Alors l'autre lui dit mon vieux, une mosquée il reste ça, mais il y avait pas de champ avant, c'était un village. Alors il dit, mais il est où le village? Il dit, il a été rasé comme tous les villages de la zone. Et pour lui, c'était une découverte incroyable, quoi. Il y avait eu des villages, là où il était en train de travailler dans le champ, il y avait eu des villages et ils avaient tous été rasés.
On est en quelle année, là?
En 68. Le mec qui lui dit ça, il a 30 ans. Donc il avait 10 ans en 48, cet Israélien-là qui lui dit. Donc lui, il a pas vu qu'on a rasé, il a pas vu. Mais il sait que ça a été fait. Et donc, je me pose la question, dans ce livre, de qu'est-ce que les gens savent vraiment du passé, de leur propre passé? Qu'est-ce qu'on leur dit à l'école? Qu'est-ce qu'ils refusent de savoir et qu'au fond ils savent vraiment? Comment ils intègrent ça mentalement? Qu'est-ce qu'ils se disent à eux-mêmes pour garder d'eux-mêmes? C'est pour ça que je parle beaucoup du déni. Qu'est-ce qu'il faut se dire à soi-même pour garder de soi une image valorisante? Et donc, pour, tout en ayant rasé le village, garder de soi une image valorisante, il faut démoniser l'autre.
Moi, je jette des pierres contre les chars.
Quel âge tu as?
TH.
10 ans.
10 ans. Et vous, quand vous étiez gosse, vous aviez les grands frères qui vous racontaient l'intifada?
On fait la même chose, comme les grands, les adultes, ils vous ont
comme les grands frères.
Chaque maison, il y a soit un martyr, soit un blessé, soit un prisonnier.
احنا ما بنخضع لهم لو اخر نقطه دم
Jusqu'à dernier goût de sang, on ne va pas se soumettre aux Israéliens. On va résister jusqu'au bout.
Les M16 contre les F16.
Louise comme une pierre contre une montagne aussi.
Prochainement, nous retournerons en Israël et à Gaza et en Cisjordanie avec des reportages que nous vous présenterons. Pour l'instant, on est avec deux auteurs, deux écrivains, Denis Sifer et Sylvain Sipel, et qui tous deux s'intéressent à la question israélo-palestinienne. L'un, Denis Sifer, vu d'ici, vu de France, Israël-Palestine, une passion française. Et Sylvain Sipel, qui connaît, comme il vient nous le dire, intimement cette société pour y avoir vécu, pour parler, il parle hébreu, pour y avoir grandi, travaillé, y compris fait son armée en Israël, nous donne ce livre intitulé Les Emmurés. Ça dit assez bien son propos, sauf qu'on ne sait pas très bien qui sont les emmurés de ceux qui enferment les autres et qui s'enferment par la même. Je me souviens de la parution de Le péché originel d'Israël. On faisait allusion au bouquin de Dominique Vidal et Joseph
Al-Ghazi,
hein, qui avait fait grand bruit à l'époque, mais qui se référait à une petite révolution, enfin pas une petite, une grosse, une grande révolution culturelle, intellectuelle en Israël, qui était la publication par une série de ceux qu'on a appelé les nouveaux historiens, oui, de ce que vous évoquez, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 1948. Et vous racontez bien comment ces historiens, aujourd'hui, enfin par la suite, ont été à nouveau ensevelis. On parlera aussi du cas de Benny Morris, qui est extraordinaire.
Extraordinaire.
Le renversement d'un intellectuel remarquable, le plus remarquable, oui, sans doute, de ces historiens. Oui. Comment il va se
C'est son déchirement intérieur, quoi. Mmh. Il reste un très bon historien, et à côté de ça, tout ce qu'il découvre l'amène à des positions absolument extrêmes. À dire clairement, il faut virer les Palestiniens. Ouais, à justifier tout ce qui s'est passé.
Mais, on va revenir sur son cas, parce que c'est un, mais, parlant comme on le fait, on s'expose, et Denis Sifer le sait très bien, à vous remettez en cause Israël. Comme si toute critique de la politique israélienne, ou de l'histoire d'Israël, ou toute révélation sur l'histoire d'Israël, était une mise en cause de l'existence même d'Israël. On sait très bien à quoi, vous le dites dans votre bouquin, vous allez au-devant de ce qu'on va dire de votre travail.
Parce que, qu'ont fait les nouveaux historiens? Ils ont commencé à travailler sur la base d'archives, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé dans la guerre d'indépendance. Et puis finalement, ils sont arrivés à la conclusion, grosso modo, que tout ce que les Palestiniens disaient depuis maintenant 40 ans était exact. Je caricature à peine, hein. Voilà ce qui s'est passé. Comment ont réagi les historiens officiels israéliens? Ils ont dit, oui, mais si vous dites ça, vous remettez en cause l'existence d'Israël. Vous remettez en cause le sionisme. C'est un argument très bizarre. Ça veut dire que la vérité, et la vérité sur des crimes du passé, remettrait en cause l'existence d'un État parce que l'État ne peut être que pur de crime. C'est un argument absurde. Comme nos intentions étaient pures, il en découle que nos actes l'étaient également. Et si on dit que nos actes étaient impurs, alors nos intentions l'étaient forcément aussi. Imaginons, aujourd'hui, si on renverse le problème et qu'on le met du côté des Palestiniens. Alors ça veut dire que si les intentions des Palestiniens sont pures, ils veulent créer, c'est un mouvement national, ils veulent créer leur État. Alors ça veut dire qu'ils ne commettent pas d'actes barbares? Et le fait qu'ils puissent en commettre, remet-il en cause forcément le fait que leurs intentions sont légitimes? Non. Et donc, il y a beaucoup d'États, il n'y a pas qu'Israël, qui sont nés en commettant de nombreux
crimes.
Voilà,
c'est ce que j'allais dire.
Il n'y a pas qu'Israël. Est-ce que ça remet forcément en cause? Donc, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi il ne faut pas mettre au jour le crime, et pourquoi le fait de le mettre au jour est perçu par ceux qui en sont les héritiers? Ça s'est passé il y a plus de 50 ans. Presque. Pourquoi est-ce que leurs héritiers le perçoivent comme une remise en cause de leur propre légitimité?
la difficulté d'assumer les crimes, d'assumer nos crimes hein, par une société. On connaît ça en France. Là, il y a un écho profond avec ce que nous sommes. Il suffit de d'évoquer le mot de Papon, de Vichy, et de rappeler que c'est un historien américain, Paxton, oui. Qui a fait découvrir aux Français 70-71, nous fait découvrir notre notre propre histoire et nous invite à assumer nos crimes. Que je sache, ça n'a pas remis en question profondément l'estime que oui, les Français ont d'eux-mêmes ou de leur sentiment national.
Mais je pense que le problème pour les Israéliens est plus lourd et plus grave pour une raison simple. Ce que les États-Unis ont fait aux Indiens, ça ne remet pas en cause. Les États-Unis auraient existé avec ou sans ce massacre. La France et la République française auraient existé avec ou sans la guerre d'Algérie et d'autres crimes coloniaux. La Belgique aurait existé telle qu'elle était sans le Congo au début du siècle et Léopold. Pourquoi c'est plus difficile pour les Israéliens? C'est ça. C'est que, effectivement, ce qui se passe en 48, c'est-à-dire en deux mots, il n'y a pas de massacre en 48. Il y a eu des massacres, mais ce qui caractérise 48 n'est pas un massacre. En revanche, c'est une expulsion organisée et politiquement souhaitée de la population
et vous
locale.
Vous employez civile. Le terme de purification ethnique.
Non, c'est Benny Morris qui l'utilise.
Oui, hein, mais vous citez ethnique. Beaucoup.
Oui, je cite son terme. Il a mis 20 ans pour y arriver. Ils disent, il faut appeler un chat. Aujourd'hui, on appellerait ça une épuration ethnique. Voilà, c'est le terme. À l'époque, ça n'existait pas. Mais quand on compare, voilà, c'est comme ça qu'on l'appellerait aujourd'hui. Donc la différence pour Israël, et c'est pour ça que c'est plus difficile, c'est pour ça que sortir du déni est tellement plus difficile, c'est que c'est quand même constitutif de la manière dont Israël s'est créé. C'est au cœur de la création même du pays. Et c'est pour ça que c'est plus difficile. Et c'est pour ça que les gens disent, oui, mais alors si on le reconnaît, on devient illégitime. C'est cette idée-là qui est au cœur. Non, ils ne deviennent pas illégitimes, au contraire. Ce qu'ont dit de nouveaux historiens, ils ont dit au contraire, on en sortira plus fort, on pourra se regarder dans notre glace, on se verra tel que nous sommes en nous-mêmes, et Israël sortira renforcé de l'étude de sa propre histoire. Mais c'est ça qui fait peur aux gens.
Écrivez longuement Sylvain Sipel dans votre bouquin. Là, alors si je dis les colonies, hop, on me classe complètement tout de suite. Hein. Si je dis une colonisation, la colonisation, on dit bon, on a compris, c'est un type de gauche pro-palestinien. Il va falloir que je dise les implantations. Il va falloir que je fasse très attention à mon langage. Si je dis Cisjordanie, ça me situe. Et si je dis Judée-Samarie, ça me situe également. Il y a tout un jeu sur les mots. Mais vous racontez longuement dans ce bouquin, vous faites bien comprendre ce qu'a été la colonisation, ces implantations peu à peu qui s'installent en Cisjordanie. En fait, ce qu'il y a simplement, pour simplifier outrageusement votre propos, il y a soit l'enfermement sur soi-même, ce que vous appelez l'ethnicisme, une espèce de repli ethnico-religieux comme ça, ou bien, on a compris que c'est votre parti, une ouverture plutôt sur des valeurs universelles.
Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, entre autres, hein, c'est que l'échec de Camp David et l'intifada qui lui a succédé ont beaucoup modifié la société israélienne, ont reposé à la société israélienne les deux dates clés de son histoire, qui sont 48 et 67. Et ça a laissé très peu d'espace politique au centre. Très peu d'espace. C'est-à-dire que les Israéliens, les gens avec qui on parle, ont beaucoup évolué. Honnêtement, à 75%, ils ont basculé globalement, hein, pour caricaturer, du côté de Sharon. C'est-à-dire la sécurité d'abord. Et donc, dans une sorte de regard porté sur l'adversaire, c'est un monstre. Il commet des horreurs, des attentats suicides, etc. Donc l'adversaire, globalement, est perçu comme une monstruosité. Et un quart des Israéliens ont peu à peu commencé d'évoluer. Et des gens, aujourd'hui, qui étaient des travaillistes bon teint, il y a encore 5 ans, vous parlez avec eux, ils tiennent des discours, mais si les dirigeants communautaires français, juifs français les entendaient, mais ils seraient absolument ahuris d'entendre ces gens-là. Alors on sait que Abraham Bourg, qui est l'ancien président de l'Agence juive, ancien président de la Knesset, a fait des articles d'une sévérité absolument incroyable sur la politique israélienne.
Très violent, ouais.
Extraordinairement violent. Ces gens-là, ouais, voilà. Mais ils sont, c'est pas une personne. Moi, j'ai rencontré l'ancien conseil juridique du gouvernement, qui en Israël a rendu ministre, qui est l'ancien conseil juridique de Yitzhak Rabin. Je parle avec lui, et à un moment, je lui dis, alors monsieur, ce que vous craignez, c'est que Israël établisse, aille vers un apartheid. Il me dit, je crains qu'Israël aille vers un apartheid. Et mon cher monsieur, Israël pratique l'apartheid depuis 37 ans. Ce type était, il était le conseiller juridique d'Yitzhak Rabin. Alors, après, j'ai parlé ensuite à l'aparté, j'ai dit, mais vous l'avez dit à Yitzhak Rabin, mais il me disait, mais je lui ai dit 10 fois. Bon. Et donc, après, il l'a écrit, publiquement. Bon. Donc, ces gens-là ont terriblement évolué. Donc, aujourd'hui, globalement, la société israélienne, elle est confrontée à quelque chose d'assez simple. Il y a ceux qui pensent que tout passe par le rapport de force, et le maintien du rapport de force. Mmh. Alors, on peut louvoyer, on peut lâcher Gaza, mais il faut maintenir les colonies, il faut maintenir la Cisjordanie, on va négocier, etc. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre le rapport de force favorable. Et puis, vous avez une minorité, mais dont il faut dire que c'est une minorité croissante, de gens qui prennent de plus en plus conscience que la sortie de cette impasse-là, elle se fera par l'admission de l'égalité de l'autre, de la parité en dignité, en humanité. Donc, il faut reconnaître le passé, il faut admettre ce qui s'est passé. Et puis, il faut trouver les voies pour qu'effectivement, deux États puissent coexister et qu'ils puissent le faire dans la dignité, pas par l'imposition de la force de l'un sur l'autre. Bon. Mmh. Et de plus en plus d'Israéliens prennent conscience de ça.
Oui, c'est ce que vous appelez le camp moral. Enfin, c'est ce qu'on appelle...
C'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle le camp moral, si vous voulez. Parce que je l'appelle comme ça parce que je constate. Parce que dans mon livre, c'est sans arrêt des retours entre le passé et le présent et un petit peu l'avenir. Je pars de 1912. En 1912, il y a les pogroms en Russie, on est peu de temps après les pogroms dans l'Empire tsariste, mais en 1912, il n'y a pas eu encore la Shoah, il n'y a pas eu tout ça, il n'y a pas cette référence-là. Mmh. Et pourtant, il y a un colon, un type qui vient d'arriver et qui dit à ses congénères, dans une toute petite colonie, il s'appelle une Moshava Rehovot, qui leur dit, mais comment on se comporte? C'est pas possible. On est en train de faire aux paysans palestiniens ce qu'on nous faisait à nous en Russie, c'est pas possible. En 48, il y a un ministre, Aaron Zisling, qui écrit à Ben-Gurion, quand il comprend ce qui est en train de se passer, qu'on est en train de virer toute une population civile de manière méthodique, il dit, mais c'est horrible, il fait même référence au nazisme. Parce que la propension à faire référence au nazisme, elle est très importante en Israël,
et entre soi,
etc. Oui, mais surtout, il faut se remettre dans la situation, c'est 48, c'est 3 ans après. Donc la référence vient quasi instantanément, si vous voulez. Et donc, ces gens-là ont toujours existé en Israël. Ceux qui ont toujours existé ont toujours été ce que j'appelle catastrophistes. C'est-à-dire qu'ils se disent, à force de faire ce qu'on fait, à un moment, ça va nous retomber dessus. Mmh. Et il y a un moment où il y aura, et la fin sera terrible. Ça ne marchera pas à terme. Honnêtement, je repasse à la politique, mais la raison fondamentale pour laquelle Ariel Sharon accepte de sortir de Gaza, il a toujours dit qu'il n'en partira pas. Et au bout de 4 ans et demi, il est parvenu à la conclusion que ça ne marchera pas. Que c'est pas possible de rester.
C'est pas possible de rester.
C'est pas possible. Il y a 5000 colons. Il faut 40 000 soldats pour les garder. Il y a 1 200 000 Palestiniens autour. À terme, c'est pas viable. C'est pas viable.
Pas lâcher un seul centimètre de terrain.
Well, it's a difficult situation, but you have to be stern.
C'est une situation difficile, mais il faut être ferme.
Alors, c'est quoi la fermeté?
Don't give an inch.
Il faut pas lâcher un seul centimètre de terrain.
On a vécu la Shoah il y a 50 ans et on peut pas recommencer ici en Israël chez nous.
La Shoah.
Propos de colons israéliens fraîchement rapporté dans les valises de la base. J'y suis. On reviendra sur ces, sur ce sujet. Donc, le désengagement de Gaza. Don't give an inch dit, c'était ce chrétien sioniste américain. On les retrouvera dans les prochains reportages. Mais pour se préparer à ces reportages, formidable rencontre avec Denis Sifer pour son livre Israël-Palestine, une passion française, le lien entre nous et le conflit israélo-palestinien, ou la question israélo-palestinienne. Ce sera pas toujours un conflit. Et puis, Sylvain Sipel pour son bouquin Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse. Denis Sifer, dans quelle mesure on trouve les échos de ce que dit Sylvain Sipel en France? Je rappelle le titre de votre bouquin, Israël-Palestine, une passion française. Est-ce qu'on voit se développer aussi un camp moral en France qui essaye de faire comprendre?
Bien sûr,
il existe ce camp moral. Il n'y a pas que les voix de ce qu'on appelle les intellectuels organiques et qui occupent le devant de la scène en
Orient très fort. Il y a eu ce que Sipel appelle, d'ailleurs, juste titre, une brutalisation de la société israélienne. Et il y a une brutalisation de la société française. Heureusement, avec une intensité moindre. Moi, je récuse complètement, disons, la thèse de l'itifada des banlieues. Cette comparaison est fausse. Cependant, il y a eu un déplacement politique au sein de la communauté juive. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, l'évolution de ses dirigeants. Hein, entre un homme comme Théo Klein, qui a un discours sans doute proche de celui d'Abraham Bourg, qu'on évoquait il y a un instant, et puis Roger Kukerman aujourd'hui, on a, exactement, d'une certaine façon, le reflet du déplacement de la politique israélienne au sein de la société française. Mais au sein de la société française, il y a aussi des gens qui postulent à s'exprimer et qui ont une autre narration, disons, de leur histoire, qui est l'histoire coloniale, qui sont des gens issus de l'immigration maghrébine à une ou deux ou trois générations, et qui, finalement, maintenant, veulent afficher aussi, disons, leur identité. Il faut ajouter que tout ça est dans un climat international qui n'est pas neutre là-dedans. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un peu partout une ethnicisation, un tribalisme qui triomphe, qui est en particulier véhiculé par les néoconservateurs américains. Cette idée qu'on une sorte d'essentialisme culturel qui ferait que l'arabe serait comme ci, éventuellement que le juif serait comme ça, etc. Et que chacun devrait être renvoyé à son ethnie d'origine. C'est une culture qui se diffuse, qui n'est pas sans attrait pour, disons, la politique américaine, en particulier de Bush aujourd'hui, hein, et qui vise en effet à définir le terrorisme comme une idéologie, par exemple. Alors que l'on sait que ça a toujours été la réaction de colonisés ou de gens qui se révoltaient dans des situations de faiblesse, et c'est pas en soi une idéologie, même si c'est évidemment hautement condamnable. La société française, évidemment, on a ce débat, et on l'a avec cette bipolarisation. Alors, vous m'interrogez sur le camp moral. Il existe. Et par exemple, je suis allé, moi, récemment, au congrès de l'Union française juive pour la paix. Bon, j'étais très étonné, en fait. Je les connaissais peu, finalement, de voir à la fois le nombre de leurs adhérents, la richesse de leurs débats, de voir qu'il y avait là un pôle très important, finalement minoritaire, hein, très minoritaire sans aucun doute, mais revendique le droit des Palestiniens, affiche des points de vue qui sont de très très différents, c'est moins qu'on puisse dire, de ceux qui sont exprimés officiellement par le CRIF. Et ça montre qu'il y a quand même là aussi une prise de conscience qui est croissante, qui se développe.
Deux bouquins qui se complètent, le livre de Denis Sifer sur les relations entre la France, la passion, cette passion française envers le Proche-Orient, envers Israël et la Palestine, et puis le bouquin de Sylvain Sipel qui parle plus de la société israélienne vu de l'intérieur. La couverture du bouquin dit un peu tout. C'est le mur, le fameux mur qu'il faut appeler barrière de sécurité, gentille petite barrière de sécurité, avec deux personnages de chaque côté qui vraiment n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et la conclusion à laquelle vous arrivez, c'est se résume en une expression, une défaite salvatrice. Et ça, quand on voyage aujourd'hui en Israël ou dans les territoires, on voit bien que la question, notamment sur le retrait de Gaza, qui va pouvoir dire on a gagné, hein, dans cette histoire-là. On voit bien comment les Palestiniens s'apprêtent à dire c'est une victoire palestinienne, et comment les Israéliens ne voudraient pas perdre la face sur cette histoire-là. Il y a toute une histoire toute bête de qui va perdre et qui, en perdant, gagnera peut-être. C'est peut-être le perdant qui va gagner.
C'est-à-dire que le drame de... À Camp David, il aurait pu y avoir un accord Je pense qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre, mais fondamentalement, je pense que c'est les Israéliens qui n'ont pas compris l'enjeu de Camp David et qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour aboutir à un accord. Mais ceci dit, ça a complètement bouleversé la donne. Et pourquoi j'appelle ça une défaite salvatrice ? Parce que aujourd'hui, je le dis un moment dans le livre, militairement, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur dans ce conflit, militairement. Ce sera les Israéliens. Le rapport de force est tel qu'il n'y aura pas d'autre vainqueur militaire. Désormais, alors que hier, peut-être, il pouvait y avoir deux vainqueurs. Ce que Arafat appelait à paix des braves, etc., ni perdant, ni gagnant. Malheureusement, aujourd'hui, c'est fini. Il n'y aura qu'un seul vainqueur militaire, il s'appelle Israël. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur politique, ce sont les Palestiniens. Pourquoi je dis ça? Parce que il n'y aura pas de solution sans retrait général des troupes israéliennes des territoires occupés. Je ne sais pas si ça adviendra, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera après le retrait de Gaza, si ce retrait a lieu, mais je pense, moi, maintenant, a priori, qu'il devrait avoir lieu. Après se posera la question de la Cisjordanie. Au fond, Sharon dit, il faut renégocier, etc. Tout a été négocié. On sait exactement à quelles conditions tout ça peut se solutionner. On le sait. Il faut quitter les territoires. Alors si on arrive à un accord avec 1% par-ci, 1% par-là, mais fondamentalement. Or, le mur continue d'être construit. Mais la colonisation continue. Le mur continue d'être construit tous les jours. Ça a été refusé. C'est la première chose qu'Abou Mazen a demandé, d'arrêter ça. Et ça continue. Ça a été refusé, ça continue tous les jours. Au fond, qu'est-ce qui empêche les Israéliens de se retirer? C'est la confrontation avec eux-mêmes. C'est pas la confrontation avec les Palestiniens. Honnêtement, c'est pas les colons. Je le dis dans le livre. En Israël, plein de gens me disent, tu te rends compte, il y a 250 000 colons dans les territoires, c'est impossible, comment est-ce qu'on arrivera, ça fera une crise terrible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si un gouvernement israélien disait demain, dans 6 mois, il n'y aura plus un seul soldat en Cisjordanie, parce que nous nous retirons de Cisjordanie, il ne restera pas un seul colon. Aucun colon ne restera sans la protection de l'armée. Pas un seul ne restera. Donc, en revanche, quelle crise en Israël? Quelle crise? Ça poserait toutes les questions. Pourquoi ça nous a pris 40 ans pour comprendre qu'on ne pouvait pas rester? Que c'est une occupation? Que ça s'appelle l'occupation d'un peuple? Pourquoi est-ce que ça a été si long? Pourquoi est-ce qu'on s'est raconté des bobards? Pourquoi est-ce qu'on a dit si longtemps, tout va bien, ils se révoltent pas? Pourquoi a-t-on commis tant d'erreurs? Pourquoi n'a-t-on pas vu et pas compris qu'il y a là un conflit? C'est une occupation militaire. Les gens veulent être libres. Ils veulent créer leur propre État. C'est comme ça. Et il fallait partir. On aurait eu beaucoup moins de morts. On aurait eu beaucoup moins de difficultés. Ça posera des problèmes énormes d'image de soi.
Et vous n'êtes pas le premier à le dire. Tout au cours de cette histoire, vous le dites dans votre bouquin, et puis on le sait aussi par ailleurs, il y a eu toutes ces voix qui n'ont pas dominé, pour dire, je pense à Leibovitch et Leibovitch et d'autres, parce que c'était quand même le plus vitupérant, mais pour dire à quel point l'occupation et la colonisation entraînaient une corruption morale.
Non mais je raconte, il y avait un groupe à l'intérieur du Parti travailliste dès 67 qui s'est dit il faut pas rester, il faut se tirer de là. Il faut trouver des modalités d'accord. Il faut se tirer de là. Il faut pas qu'on reste. Ça va être une catastrophe.
Ben Gurion l'a dit même dans un premier temps. Après, il est revenu sur...
Il n'était plus rien à l'époque, Ben Gurion. Il a dit tout et son contraire à Ben Gurion. Mais c'est vrai qu'il l'a dit.
Sa première réaction
a été de dire il faudra partir. La première réaction du premier ministre. Il y a une histoire extraordinaire. Au troisième jour de la guerre, le 67, le chef des renseignements militaires dit à Ben Gurion, on prend la Cisjordanie. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut savoir ce qu'on veut en faire. Et, pas Ben Gurion, je veux dire, Lévi Eshkol, premier ministre. Lévi Eshkol lui répond, écoute, on va voir, mais de toute façon, il faudra tout rendre, tout, y compris Jérusalem-Est, à terme. Il faudra tout rendre, sinon, il n'y aura pas de solution. Un mois après, tout ça a été oublié. Et on commençait à la colonisation, etc. D'autres dans le Parti travailliste se réunissaient entre eux. Ils étaient dirigés par le ministre de l'économie de l'époque, qui s'appelait Pinchas Sapir. Et ils se prenaient la tête dans les mains en disant, ah, c'est une catastrophe, faut pas faire ça, on est en train de faire des conneries, on peut pas dominer un autre peuple, ça va nous amener à la catastrophe. Et puis, ils se le disaient entre eux, et puis ils se taisaient. Vous avez absolument raison, Daniel. Depuis très longtemps, Leibovitch le disait de manière très virulente, mais au plus haut niveau de l'État, il y avait des ministres qui étaient convaincus, le ministre des Finances était convaincu que ça était une catastrophe, et il signait l'échec. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait, c'est Amos Elon, un très bon historien israélien, un chroniqueur israélien, qui l'a raconté. Quand il signait l'échec, il disait, oh là là, c'est vraiment des conneries cette colonisation. Mais le jour où on rendra ça, les Américains, pour chaque livre israélien dépensé, nous fileront $1.
Denis Sifer, alors, puisque vous, votre angle, c'est ici, c'est l'Hexagone, c'est la France, quelle réaction Y a-t-il en ce moment, en écoutant ce que dit Sylvain Sipel? Que disent les Français, les auditeurs? Il y a 500 000 auditeurs qui écoutent ce qu'il vient de dire. Il y a ceux qui sont d'accord avec lui. D'autres disent, ça y est, c'est la haine de soi. Mermet est antisémite, on le savait bien. Il y a, qu'est-ce qu'on a comme réaction actuellement?
Ben, j'espère justement que les réactions sont pas trop tribales. Je suis un peu sceptique là-dessus. Et j'espère que les gens, les auditeurs, écoutent ce qui est dit. Et pas, n'essayent pas de juger, ou de qualifier, ou de stigmatiser ceux qui le disent, ce qui est dit. Et moi, ça m'inspire simplement une réflexion sur la situation d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que peut-être une certaine prudence par rapport à un certain enthousiasme dans le climat actuel. Parce que je crois que, en effet, comme le dit Sylvain Sipel, la véritable paix ne sera véritablement fondée que sur la question de la décolonisation de la Cisjordanie. Tant que cette question ne sera pas sur la table, alors on risque en effet d'avoir des retours en arrière qui seront toujours plus violents que le précédent. Et bon, effectivement, on peut être que pour le désengagement de Gaza, mais il faudrait pas que ce soit pour solde de tout compte. C'est ça qui restreint un tout petit peu mon optimisme et mon euphorie dans cette affaire.
Merci Denis Sipel. Donc, je rappelle son bouquin Israël, Palestine, une passion française. Et puis, Sylvain Sipel, Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse, des sujets dont il sera. Nous retrouverons dans le prochain reportage dans la base où j'y suis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission la base où j'y suis. Technique aujourd'hui, Alain Stam et Ludovic Asselot. L'équipe de la base J'y suis, c'est Antoine Chaos, c'est Yann Chouquet, c'est Pascal Yello, et c'est Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur, qui attend vos observations et vos questions et vos réponses au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37 et le mail de la base J'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Dans 1 minute et 02 secondes de réclame, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau. Et on se retrouve demain à 17h pour la base où j'y suis. Salut.